Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François-Pierre Nizeri.
Chers auditeurs de Canal Académie, bonjour et bienvenue dans l'émission consacrée aujourd'hui à un regard très particulier sur l'Europe, disons au moins un regard inhabituel, le moins qu'on puisse dire. L'Europe, quelle Europe ? L'Europe de la mémoire, bien sûr, celle des guerres et des rivalités d'antan. L'Europe réunie, celle d'aujourd'hui. Mais surtout, surtout, une Europe revisitée à travers le prisme de la relation qu'elle entretient avec une région du monde, à la fois extérieure à elle-même et ancrée dans son intimité. Une région qu'elle observe sans toujours la comprendre, alors qu'elle y trouve sa source, l'un des fondements immémoriaux de ses propres valeurs. Cette région enlisée dans un conflit interminable, eh bien c'est celle que se disputent Israël et la Palestine. Alors qu'on ne s'y méprenne pas, nous n'allons pas dans cette émission ouvrir un énième débat sur le conflit israélo-palestinien. Nous allons nous concentrer sur l'Europe, seulement l'Europe, et un regard sur elle-même rendu différent par ce détour en Méditerranée. Alors pour en parler, eh bien j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Bernard Philippe. Bernard Philippe, bonjour.
Bonjour.
Son regard détourné sur l'Europe, si j'ose dire, Bernard Philippe l'a expliqué dans un essai récemment publié aux éditions Rive-Neuve, « Le prix de la paix, Israël-Palestine, un enjeu européen ». Alors pourquoi a-t-il écrit ce livre ? Il va nous le dire dans un instant, mais je pense qu'on le comprend déjà assez bien à la lumière, de son parcours professionnel. Bernard Philippe est fonctionnaire européen, un métier que nous avons exercé tous les deux pendant de longues années, et pas dans les mêmes secteurs d'activité, mais en partageant en tout cas le même engagement qui fait d'un fonctionnaire européen un militant d'une cause plus qu'un agent d'une institution. Son regard particulier sur l'Europe, Bernard Philippe le doit aussi à une carrière longtemps consacrée au Proche-Orient et notamment aux relations israélo-palestiniennes. Il a même joué un rôle actif dans la constitution des institutions palestiniennes, notamment lorsqu'il était détaché à la Banque mondiale, plus précisément au secrétariat du comité ad hoc de liaison, mis en place à la suite des accords d'Oslo. Il est aujourd'hui chargé, au sein de la Direction générale des relations extérieures de la Commission européenne, des relations avec la Géorgie. Mais l'attachement à l'Europe de Bernard Philippe, ce n'est pas seulement une carrière, c'est aussi une histoire familiale et c'est ce qu'il va nous expliquer en répondant, s'il le veut bien, à ma première question. Bernard Philippe, ce livre est-il né d'un besoin profond pour avoir dans votre enfance vécu de près, je dis bien vécu de près, la relation France-Allemagne, cette relation qui semble vraiment au cœur de votre démarche ?
Merci beaucoup François Nizeri pour votre accueil, votre introduction et pour cette première question. Il est vrai que ce qui m'a mis en marche pour écrire ce livre s'explique en bonne partie par mon vécu familial, puisque toute mon enfance a été baignée dans la rivalité franco-allemande. Et je me sens donc très héritier des multiples générations familiales qui ont été marqués à jamais par le conflit et la rivalité entre France et Allemagne. Quelques exemples rapidement, un grand-père dans l'horreur de Verdun, un autre grand-père sur le front russe avec l'uniforme allemand parce qu'il était lorrain, mon père et tous ses frères, 5 ans de captivité, j'en passe, sont des choses qui ont été communes à beaucoup de familles, mais qui effectivement m'ont beaucoup marqué dans mon enfance. Cela dit, je dois dire que j'aimerais insister sur deux autres choses qui expliquent un petit peu ce travail. C'est qu'il n'y a pas longtemps, en 2007, c'était les 50 ans de l'Europe que l'on fêtait. Et j'étais à ce moment-là responsable de l'Union européenne en Tunisie, en fait. Et je devais, à l'occasion du 9 mai, le 9 mai qui est la fête de l'Europe, essayer d'expliquer pourquoi cette Europe avait du sens pour nous et pourquoi on l'a continuée. Alors, je me suis mis à réfléchir un petit peu à l'histoire de l'Europe, que j'avoue connaissais très mal, et je me suis rendu compte que ce que l'Europe avait construit dans les années 50 et 60 D'abord, il faut le comprendre à la lumière de ce qu'elle a déconstruit avant, en particulier le traité de Versailles entre la France et l'Allemagne, qui a été un traité de paix tellement terrible qu'il a préparé directement la venue de Hitler. Mais je me suis rendu compte qu'en faisant ce travail, que la réconciliation entre la France et l'Allemagne n'était en rien quelque chose de facile et de garanti. Et qu'il y avait beaucoup de raisons, notamment du fait d'un esprit de revanche très fort qui restait en France et d'un esprit de découragement très marqué en Allemagne. Il y avait beaucoup de raisons qui auraient pu expliquer que la construction ne se fasse pas, que la réconciliation ne se produise pas. Il y a donc ici quelque chose de mystérieux que je n'ai pas réussi à comprendre, mais qui m'a mis en route. Et je crois que, fondamentalement, il y a dans cette réconciliation entre la France et l'Allemagne un sens qu'on est loin d'avoir, des filons de sens, qu'on est loin d'avoir exploité jusqu'au bout.
Bien. Bernard Philippe, donc maintenant, remontons encore l'histoire de la relation France-Allemagne et parlons un peu maintenant de ce que j'appellerais ses ressorts profonds. Parce que cette relation qui est à la fois dans sa violence initiale et dans son apaisement, dans la réconciliation, qui est donc le moteur central de la construction européenne, cette relation reste marquée par une série de conflits dont le dernier, qui est à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale, est bien plus que le résultat d'une rivalité entre deux nations. Alors, à cet égard, vous évoquez dans votre ouvrage, à juste titre, pour expliquer les conflits anciens et actuels des deux côtés de la Méditerranée, vous évoquez la théorie de René Girard sur la rivalité mimétique, le mimétisme comme origine des conflits. Toutefois, la théorie de René Girard, il ne faut pas oublier, c'est aussi le mythe sacrificiel comme solution, je dis bien solution entre guillemets, bien sûr, solution des conflits. Or, l'Europe ne s'est-elle pas construite au départ sur la base d'un conflit où déjà, la question juive à travers la Shoah était présente? Alors, est-ce que c'est ainsi, à partir de cette théorie de René Girard, que vous considérez le conflit israélo-palestinien non pas comme une réplique, mais comme une sorte de prolongement d'une affaire interne à l'Europe? Je vous en prie, Bernard Philippe.
Je vous remercie beaucoup pour cette question parce qu'il est vrai que les travaux de René Girard, avec son analyse de la rivalité mimétique, montrent bien comment la violence s'enclenche et se nourrit. Il montre bien que l'homme se met dans des situations de rivalité qui ne demandent qu'à prospérer. Parce qu'il est fondamental de la relation humaine et ce qui est montré par les développements les plus récents des neurosciences, c'est cet instinct d'imitation qui crée tension et conflit dans les relations humaines. Alors, les sociétés archaïques se sont trouvées des rites sacrificiels pour conjurer la violence. Les sociétés modernes plus évoluées, en particulier les sociétés démocratiques, ont mis en place des institutions qui sont en fait des façons de canaliser et de juguler la violence. Et on peut dire de ce point de vue-là que l'ensemble de la construction européenne, qui est en fait un mécanisme de régulation de la violence et qui est un mécanisme de coopération, par ces institutions, est tout à fait quelque chose qui correspondrait, disons, au schéma si bien analysé par René Girard. Cela, c'est effectivement très approprié. Cela dit, il est vrai que si on revient sur la question plus spécifique de l'Europe, l'Europe s'est elle-même fondamentalement construite sur un conflit, sur la réconciliation franco-allemande, mais sur un conflit mondial, et que, y compris dans ses formes les plus absolues, les plus folles, qui ont été la Shoah. Il est donc vrai que l'Europe porte cette réalité de la question juive dans ses propres entrailles. Elle en est porteuse jusqu'au bout de ses entrailles. Et bien sûr, c'est vrai du passé, et puis les responsabilités aussi de l'Europe, ce n'est pas simplement la Shoah, mais c'est également le passé colonial. Et c'est pour cette raison même que dans mon livre, j'insiste beaucoup sur cette idée, c'est l'incapacité pour l'Europe de continuer à progresser, à se développer sans qu'il y ait la paix définitive en Israël, qui serait une façon de, en partie, bien sûr pas de compenser, mais de dépasser le passé pour lui donner un sens différent. En effet, si l'Europe, malgré toutes ses errances, malgré toutes les choses qu'elle a pu faire dans le passé, elle a quand même su construire la paix et l'unité du continent. Mais ce que j'essaie de dire dans mon travail, c'est que malgré le pas de géant qu'elle a ainsi franchi en construisant cette paix et cette unité, elle ne pourra jamais aller jusqu'au bout de son histoire sans qu'elle partage sa propre expérience de réconciliation, et tout à fait en particulier à Israël et Palestine, puisque leur situation, disons, est dans une très large mesure une responsabilité de l'Europe. Et donc, l'Europe a un besoin presque vital d'étendre et de partager sa propre réconciliation à cette partie du monde.
Bien, et bien écoutez, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, on peut essayer d'aller encore un peu plus loin dans cette réflexion. Parce que dans ce conflit israélo-palestinien, il me semble, et je vous pose la question, est-ce que l'Europe n'est pas quand même beaucoup plus qu'un simple témoin qui se prétendrait un modèle de paix entre les peuples? Vous soulignez la question de la paix. Mais l'Europe, est-ce que ce n'est pas d'abord un intervenant, comme on le disait avant, un intervenant qui porte une responsabilité historique et qui se doit, comme vous l'avez dit, de transmettre une expérience? Mais transmettre une expérience, quelle expérience? Une expérience qui va, en réalité, à l'encontre de la rivalité mimétique dont on parlait avant, en l'apaisant, cette rivalité mimétique, non pas par l'union sacrée qui est à l'origine du sacrifice expiatoire, mais par l'inverse. Et l'inverse, c'est quoi? C'est la reconnaissance de la diversité, la pluralité d'identité. Ce message que vous avez souligné dans votre livre, ce message que Freud voulait faire passer en 1939 à propos de l'identité juive, en rappelant que Moïse était égyptien. Et cette question de la pluralité d'identité, c'est quelque chose qui nourrit un débat, tout le monde le sait, qui est bien actuel en France. Et après tout, on peut aussi se demander, nous, Français, comment on pourrait oublier notre part allemande, par les Francs quand même, et notre part celte, etc., etc. Donc nous sommes des gens, les Européens ont chacun d'eux une identité multiple. Est-ce que ce n'est pas cela, finalement, qui est la clé?
Alors, je crois qu'au travers de tout cela, ce que j'aimerais dire, c'est que d'abord, si l'Europe a à transmettre quelque chose, elle doit le faire dans la plus grande humilité. Elle n'a pas un modèle à proposer, mais elle a une expérience à partager et puis elle peut proposer un terreau fécond de réflexion et de méditation. Mais ce qui, quand même, donne du poids à la réconciliation franco-allemande et à la construction de l'Europe, c'est le fait qu'un petit nombre de pays qui étaient des ennemis traditionnels sont venus apporter un démenti définitif au fait que la violence n'était pas la seule façon de communiquer entre les peuples, que la violence pouvait être inversée et que la violence pouvait être transformée en mécanisme de coordination et de paix. Et je crois que quand on connaît l'histoire de siècles et de siècles d'Europe, et même de millénaires, qui ont été marqués par des conflits, par des expériences, des rivalités, par des guerres incessantes de tous les noms, qui soient religieuses, qui soient de toutes sortes, qui ont marqué l'histoire européenne, la construction des années récentes vient prouver que des pays qui traditionnellement étaient systématiquement en conflit, peuvent entrer sur un terrain nouveau et transformer les rivalités en atouts. Les rivalités qu'on évoquait tout à l'heure de René Girard, l'Europe les a transformées en atouts. Et je crois que ce message que je voudrais donner comme une réponse à toutes ces questions très riches que vous venez de poser, c'est que la violence n'est pas le seul mode de communication et que la violence même entre ennemis qui semble héréditaire, dans le cas franco-allemand, on parlait de Erbfeinde, le mot allemand qui voulait dire ennemi héréditaire, eh bien que l'histoire n'est pas nécessairement écrite à jamais. Voilà, je crois, ce que me suggère un petit peu votre réflexion, mais ce qui suppose évidemment de laisser à l'autre une part d'identité, de l'accueillir. Et quand vous rappelez pourquoi Freud avait un petit peu provoqué ses frères juifs en qualifiant Moïse d'égyptien, je crois que c'était pour rappeler justement qu'on ne peut pas, personne ne peut s'enfermer dans sa propre identité, mais doit toujours laisser une porte ouverte à l'autre et l'accueillir.
Bien, eh bien, si vous le voulez bien, nous allons maintenant faire une petite pause. Chers auditeurs, nous reprenons notre discussion dans quelques instants.
Canal Académie vous propose d'entendre Valéry Giscard d'Estaing présenter les archives de son septennat de 1974 à 1981. Écoutez l'ancien président expliquer comment les archives de la présidence sont non pas des documents privés, mais des archives nationales, une source majeure pour les études en histoire contemporaine. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademie.com.
Alors Philippe, j'aimerais bien qu'on puisse maintenant approfondir la question du modèle de paix. Si l'Europe se prétend un modèle de paix, est-ce que cette Europe a conscience de ce que son ambition sur ce plan est assez inachevée, dans la mesure où la paix, ce n'est pas seulement la reconnaissance de la diversité dont on parlait avant, la coexistence d'identités différentes, dans la mesure où si on se contente de reconnaître la diversité, ça peut déboucher sur simplement ce qu'on appelle la tolérance, et qui débouche sur quelque chose de pire encore, qui est l'indifférence. La vraie paix, est-ce que ce n'est pas d'abord et avant tout l'au-delà de la paix ? Autrement dit, le franchissement des frontières, la connaissance réciproque, la curiosité, le désir, le dialogue. Alors question, Bernard Philippe, est-ce que notre Europe est au bout de son chemin sur ce plan-là ?
Alors, avant de répondre plus directement à cette dernière question, je voudrais commenter un tout petit peu cette idée de modèle de paix avec laquelle je ne suis pas très à l'aise, parce que chaque expérience de paix est spécifique, chaque pays en conflit doit trouver ses propres modalités de se dire, d'écrire la paix, de se dire des paroles de paix et de tourner une page nouvelle. Mais en revanche, ce que l'Europe a quand même à proposer, à partager, c'est une expérience, et puis elle est elle-même, comme je le disais, de ce point de vue-là, plus qu'un modèle, un terreau fécond d'interrogation. Alors, est-ce que la paix est achevée dans l'Europe ? D'abord, pas du tout. Je me permettrai de vous rappeler les quatre guerres des Balkans de 1991 à 1999 qui ont ensanglanté le continent. Tout autour d'elle, je me permets de vous rappeler tout un ensemble de conflits larvés, donc le conflit géorgien, le Nagorno-Karabakh, etc. Et puis, en son sein, il y a encore un énorme besoin de réconciliation en particulier, mais pas seulement, entre l'Allemagne et la Pologne. Donc, je voudrais insister beaucoup sur cette idée que même si l'Europe est déjà très loin, disons, dans la construction de la paix, elle a encore un énorme travail interne de réconciliation. Et c'est pour ça que, aussi, en participant davantage à des travaux de réconciliation ailleurs, comme dans ce conflit israélo-palestinien, c'est important aussi pour sa propre réconciliation. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'on a atteint la paix, c'est vrai que la paix ne doit pas être simplement une paix froide ou bien s'accommoder les uns des autres, mais la vraie différence pour goûter de façon définitive les fruits de la paix, c'est qu'on entre dans un chemin de dialogue où effectivement s'ouvre une page nouvelle qui va, comme vous l'avez si bien indiqué, au-delà du franchissement des frontières, mais qui cherche la curiosité, le désir, le dialogue et surtout le goût de l'autre, c'est-à-dire cette envie de savoir ce qui émeut l'autre, de savoir ce qui le fait vivre, de savoir qu'est-ce qui a du sens pour lui, de savoir qu'il a aussi une famille, qu'il a aussi une histoire et qu'il porte en lui également une espérance. Et c'est tout ça qu'effectivement on peut partager quand on entre dans cette véritable quête de dialogue avec son voisin.
Alors, Bernard Philippe, puisque nous avons parlé du dialogue, du franchissement des frontières, je propose de, comme ultime question dans cet entretien, de parler d'un mot que l'on retrouve à toutes les pages de votre livre, ou presque à toutes les pages. Ce mot, c'est le pardon. Alors, le pardon, c'est évidemment la suite logique de ce qu'on disait avant, la suite logique du dialogue, de ce que vous disiez, la suite logique du dialogue entre deux ennemis, ou parfois même, à la limite, son commencement. Mais il faut quand même dire aussi une chose, c'est que le pardon est un mot qui a, il faut bien le dire, une très forte connotation chrétienne, ce qui est bien en soi. Mais quel sens, c'est ça un peu l'objet de ma question, quel sens dans l'Europe d'aujourd'hui, qui est une Europe, il faut bien le dire, très laïcisée, quel sens on peut aujourd'hui, dans une Europe laïcisée, donner à ce mot ? Et finalement, comment est-ce que vous définissez le pardon ? Pardonner, est-ce que ça veut dire oublier la culpabilité ou la transformer en bien commun ?
Alors, sur cette dernière remarque, l'Europe est aujourd'hui très laïcisée, c'est difficile à contester, mais en même temps, ce qui la caractérise, c'est la recherche profonde d'un sens. Et je crois que cette recherche de sens peut être porteuse dans ce que je voudrais dire tout de suite. Alors, je voudrais quand même dire aussi en préalable que le pardon est quand même aussi très présent dans le judaïsme. Un bon exemple est le pardon de Joseph à ses frères qui voulaient le tuer. Et on y trouve là peut-être toute la naissance de la fraternité dans cet exemple de Joseph par le pardon qu'il donne à ses frères. Dans l'islam, on peut le retrouver aussi très présent, en particulier dans toutes les notions de miséricorde qui transpercent du texte du Coran. Mais il est vrai quand même que cette notion du pardon est en fait au cœur de la théologie chrétienne du salut et donc elle est très marquée religieusement. Mais alors c'est justement quelque chose, je crois, là doit être le fait que le pardon soit très marqué religieusement n'est pas une raison pour ne pas, disons, valoriser ce concept dans la société moderne. La société moderne, que ce soit les relations humaines individuelles ou les relations collectives, sont souvent tellement déchirées, tellement cassées, que tout le monde reconnaît dans la vie de famille ou dans la vie sociale cette nécessité du pardon. C'est pourquoi, à la suite un petit peu de Hannah Arendt, qui insiste sur le fait que c'est une notion tellement essentielle pour le vivre ensemble, pour la vie commune, que cette notion de pardon doit être réhabilitée pour la vie politique et la vie sociale en général. C'est une notion tellement importante pour que les relations humaines soient viables et soient fécondes qu'on doit de toute urgence donner un sens au pardon qui soit ouvert à tous. Alors, cela dit, le pardon, ce n'est pas simplement, évidemment, un oubli du passé, parce que le passé, il est là, il ne peut pas s'oublier, mais le pardon est une invitation à le transformer. Hein, parce que si l'histoire n'est ni réversible, ni malléable, mais elle peut être relue, éclairée, investie d'un sens nouveau. Et le pardon, aussi pour qu'il puisse se produire, il doit être accompagné d'un certain nombre de compléments indispensables. Un premier complément, c'est la justice. On ne peut pas durablement pardonner s'il n'y a pas un minimum de rétablissement de la justice. Et la vérité, on doit pardonner dans la transparence et non pas dans le mensonge. Et donc, je pense que le pardon a besoin de ces compléments pour pouvoir prospérer, mais tout en sachant que le pardon, c'est un chemin, c'est un cheminement. Il impose en général tout d'abord un travail de deuil pour que les personnes en conflit acceptent de véritablement se confronter à l'histoire en abandonnant toutes les chimères, toutes les idées excessives de puissance, d'avoir que l'on peut partager très souvent. Et une fois qu'on a fait ce travail de deuil qui nous fait rentrer dans le concret de la réalité, qu'on a fini de s'inventer des histoires en l'air, eh bien, on peut entrer dans un chemin de dialogue grâce à l'éducation. Et ça permet, ce travail de l'éducation permet de découvrir en particulier que la violence n'est pas le seul mécanisme de rencontre et que le dialogue peut ouvrir des nouvelles façons de communiquer et de se retrouver. Et donc, c'est pour toute cette nécessité, de ce besoin qu'on a de se pardonner sur le plan individuel ou sur le plan social, qu'il est absolument indispensable que cette notion de pardon dépasse sa sphère religieuse originelle et soit offerte à tous comme un chemin d'interrogation et de dialogue.
Comment ne pas être d'accord avec ce que vous venez de dire ? Ma question sur la laïcité, l'Europe laïque, ne signifie pas, je le précise, que je ne suis pas d'accord avec la notion de pardon telle que vous venez de nous l'expliquer de façon tout à fait claire. Alors, je vous propose, pour terminer cet entretien d'une façon un petit peu différente, dans la forme, je vous propose de lire, si vous le voulez bien, à la fin de votre livre, parce que ça me paraît, moi ça m'a paru lumineux. Alors, vous allez voir, je demande à nos éditeurs de prêter toute leur attention à ce que je vais leur lire. La frêle colombe que Noé avait jadis envoyée de son arche pour s'assurer du reflux des eaux du déluge a-t-elle disparu à jamais ? Celle-là même qui revint, serrant une feuille d'olivier fraîche pour dire que les eaux avaient reculé, que la terre ferme était proche, que la vie, toute vie, pouvait recommencer et que s'annonçait enfin une nouvelle ère de paix. Comment cette brindille si frêle, portée par un si frêle oiseau, peut-elle annoncer la paix ? Ne serait-ce pas plutôt la tâche de l'aigle royal qui trône sur la montagne, voit loin et scrute l'horizon. Serait-ce alors pour signifier que la paix est fragile comme une brindille, soumise au moindre souffle du vent, qu'elle se travaille comme une terre pour porter les semailles, s'émonde comme une vigne et se chuchote comme un secret d'enfant, tirée d'un arbre si noueux, comment cette brindille peut-elle porter la paix? Ne s'est-on pas trompé? Ne fallait-il pas plutôt faire appel au cèdre royal qui trône sur la forêt, voit loin et scrute l'horizon, un arbre qui donne de longues poutres du meilleur bois dont on fait les plus belles charpentes. Tassé sur son tronc, l'olivier n'a pas fière allure. Son écorce gangrénée lui donne l'apparence du lépreux qui se cache, tandis que la coiffe verte qui couvre tout son corps n'est guère plus élégante que le chiffon sur l'épouvantail des champs, si mal noué qu'il fait fuir les moineaux friands de récolte. Dans ce pauvre arbre, tout est nœud. Noué de la tête aux pieds, l'olivier est prisonnier de lui-même, nourri de sa seule indécision. La peine n'impose-t-elle pas que l'on tranche dans le vif, que les décisions soient prises, mais aussi que se disent douleurs et vérités, pour que justice et paix s'embrassent et que les pleurs laissent place à la joie? Oui, la brindille choisie pour énoncer la paix ne cesse de me surprendre. La paix serait bien mieux soutenue par ces poutres fortes et longues qui portent à plein bras. Rien de tel que force, protection et majesté pour donner goût à la paix. Que peut ce frêle rameau? Mais en même temps, je me demande si ce pauvre être n'est pas là pour nous sortir de nos retranchements et de nos rêves d'une paix nourrie de force et de puissance. Trop souvent arraché de sa terre, prisonnier de l'obscurité de ses racines et de ses nœuds, lui, l'olivier, au bout de son corps noueux, cherche la lumière. Il sait bien que sans elle, la paix ne peut germer, et il sait bien davantage que pour lui, la paix triomphante, celle des puissants, est trop lourde à porter. Seule la paix des humbles et des petits est à sa mesure, et les rares fois où la confiance le visite et que le chant du vent fait vibrer tout son être, il se souvient que c'est le travail toujours recommencé de la sève, le temps précieux de ses lents passages dans chacun de ses innombrables nœuds, le temps passé à les nourrir, le temps vécu, le temps donné, qui le rendent capable de produire son fruit. Et une fois ce fruit cueilli, peut commencer le travail rythmé du pressoir. En le broyant dans un long gémissement, il fait jaillir une huile qui s'épanche du corps noué de l'olivier, une huile qui apaise et secourt, une huile qui guérit et éclaire la nuit, une huile qui donne à l'humble rameau d'olivier son secret. Lui, le pauvre, l'infiniment noué, est le seul à connaître le secret de son huile, un secret qu'il ne peut plus garder pour lui seul. C'est son huile, faite du nourrissement de sa sève et de ses tourments, de ses exils et de ses enracinements, celle qui a coulé de ses propres veines, que le veilleur allumera sur les enceintes de Jérusalem pour annoncer la paix. Merci Bernard.
Merci François.